bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Et oui, deuxième jour sans Nagui. Ah, quel vent de liberté. Aujourd'hui, autour de la table, Albert Algou est parmi nous.
Bonjour.
Oh là là. Frédéric Segris, les gars, bonjour. En deuxième heure, nous retrouverons Tanguy Pastureau. Nous n'avons pas Nagui, mais à côté de moi, j'ai la douce Leïla Kadour Boudadi.
Salut à tous. Bonjour à toi, Daniel Morin, notre invité aujourd'hui dans la bande originale, c'est Jean Tellet.
Bonjour. Triomphe romain.
Bonjour Jean.
Et bonjour.
Et bonjour, comment allez-vous ?
Oh, comme un vieux qui n'attend plus rien de la vie. Vous savez, on arrive à des âges, on espère plus que ça s'arrête sans que ça fasse mal.
Ah non, dites pas ça, parce que moi
je j'attends. Je me sens tellement moins seul.
Non, dites pas ça Jean, parce que moi j'attends chaque année, ou tous les deux ans, le nouveau Tellé. Là, je l'ai entre les mains, c'est Entrer dans la danse, votre roman publié aux éditions Julliard. Vous allez continuer à écrire Jean ?
Ben oui, j'espère, encore quelques livres, hein. Ouais, ouais, j'aimerais
quelques
bien.
Lignes, hein.
Quelques lignes,
ouais,
comme ouais. Ça, quelques pages.
Quelques livres,
quelques feuillets.
Oui, oui, oui.
Alors parlons de ce roman qu'on a beaucoup aimé autour
quelle
de la
horreur,
table. Ouais, mais c'était génial. Entrer dans
fait,
la danse.
J'ai bien fait de ne pas vous prendre comme attaché de presse, Daniel.
Ah, je sais vendre. Hein,
non, mais déjà, Daniel a lu le livre, donc c'est déjà suffisamment important pour être souligné.
Ah, si on dit quelle horreur, ça peut tout de suite attirer plein de gens.
Et ouais.
Oh là, qu'est-ce, que, ben c'est,
justement,
qu'est-ce que c'est ?
On va raconter rapidement, en tout cas, la situation initiale de ce roman. On est à Strasbourg, et dis pas
à
quelle
Strasbourg.
Horreur, voilà.
Quelle belle ville.
Mais ouais, moi j'adore. On est en 1518.
Quelle belle année.
Et cette incipit m'a fait penser au parfum de Suskind. On est dans une ville où c'est la plus grande misère, où voilà, c'est un peu un enfer, le cadre que vous dépeignez. Et on a une jeune femme qui porte dans ses bras un nouveau-né. Elle traverse ainsi la ville et elle s'arrête dans une rue, et pas n'importe quelle rue. C'est la rue du Jeu des Enfants.
Une rue qui existe toujours à Strasbourg.
Hein. On est d'accord, je la connais.
Ah ouais ?
Et ouais, j'ai été strasbourgeoise un temps dans ma vie.
C'est là qu'elle a été abandonnée. Elle on l'a récupérée ici.
Et cette femme commet un infanticide puisqu'elle jette son enfant à la rivière.
Ouais, depuis le pont du Corbeau, et beaucoup de femmes faisaient comme elle. Quand elles avaient fini d'allaiter, elles savaient que de toute façon, elles ne pourraient pas nourrir leur enfant. Et donc, elles le balançaient à la rivière quand les familles ne mangeaient pas. Ouais.
Alors
enfants.
Ça, c'est la version douce, c'est de l'abandonner ou de le jeter à l'eau. Et l'autre version, ça, c'est la version d'Eline.
Gastronome.
Voilà. Et l'autre version,
version recyclable.
C'est de se nourrir avec son propre enfant. Alors ça, c'est vrai que c'est des pages où tout de suite, on sent qu'on est passé dans un autre univers, dans une autre temporalité. Et c'est vraiment des pratiques que vous avez pu vérifier.
Oui. Il y avait aussi des scènes de coprophagie, c'est-à-dire que les gens allaient autour des hôpitaux, et comme il n'y avait pas de latrine à l'époque, on balançait tout par la fenêtre. Les gens, ils en étaient à bouffer la merde de lépreux et tout. Enfin,
donc, si vous êtes à la maison, vous préparez en ce moment même le
bon
déjeuner. Bientôt, un guide de recettes de Jean Tellet. Voilà, rien ne se perd, tout se transforme, vraisemblablement.
C'est une variante de la choucroute.
Alors ça, c'est la situation initiale avec cette mère infanticide, ce couple cannibale qui vit dans la plus grande pauvreté. Et subitement, pour une raison qu'on n'explique pas, Enline, cette jeune femme qui vient d'abandonner son fils, passe un pied par la porte, se retrouve dans la rue et se met à enchaîner quelques mouvements de danse. Et c'est notre patient zéro de notre histoire.
Exactement. Et le gros problème, c'est que sa danse est devenue contagieuse. Et que d'abord, rue du Jeu des Enfants, les gens qui étaient dans des situations catastrophiques comme elle se sont approchés, se sont mis à danser. Et puis ça s'est répandu dans le quartier, puis dans toute la ville. Et ça a été un bordel dans la ville, parce que le maire de la ville, qui s'appelait Andreas Ragenfels, et l'évêque Guillaume de Hohenstein, tout d'un coup se dit, mais comment on arrête ce truc-là ?
Comment endiguer cette épidémie, puisque ça va se répandre comme une traînée de poudre ?
Il y a eu des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de gens qui se mettaient à danser, mais nuit et jour a pu pouvoir s'arrêter, des fois pendant des semaines. Les médecins qui déambulaient à travers les danseurs disaient, mais même les chétifs, mais comment c'est possible ?
Et ça va jusqu'à la déformation des chairs, ça va jusqu'à des plaies ouvertes.
Exactement, les pieds en sang, les cartilages apparents, les gens mouraient d'épuisement, de crise cardiaque, tout le monde tombait et tout, et le maire qui a essayé de trouver des solutions, à chaque fois qu'il tentait une solution, c'était encore pire. Et...
Oui, parce que les médecins interviennent pour donner un diagnostic, l'église aussi tente d'intervenir,
ouais. Tente
proposer...
de faire du fric même.
Oui, alors ça, on va y voir, on va y revenir à cette critique de l'église qui n'est pas légère dans ce livre. Et puis, il y a quand même des manifestations extraordinaires, parce que pour l'instant, ça a l'air un peu glauque, notre histoire, mais les hommes retrouvent une nouvelle vigueur, finalement, grâce à cette danse
mais
endiablée.
Oui, bizarrement, ils se mettaient tous à bander. Ouais.
C'est la bonne nouvelle.
Avait,
y a,
voilà.
C'est la bonne nouvelle.
Alors qu'il n'y avait pas de quoi.
Au départ, non.
Il y a quelque chose d'un petit peu joyeux, quelque part, ouais. Mais en tout cas, ces êtres deviennent vides. Ils ne sont plus capables de parler, ils ne répondent plus à leurs proches. C'est le cas du mari d'Enlin qui essaie de la récupérer. Elle est comme un être perdu.
Mais oui, et on sait que les danseurs, à partir du moment où ils se mettaient à danser, ne disaient plus un mot.
C'est une sorte de transe.
Ouais. Et les médecins se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors, ils disaient, on a lu Hippocrate, on a lu les Grecs anciens, les médecins de la Grèce antique, de la Rome antique. Personne n'évoque cette maladie. Et alors, ils disaient, en tout cas, ils ont une fièvre. Ce qu'on sait, c'est que c'est pas une crise d'épilepsie collective, comme c'était déjà arrivé, parce que personne n'avait de bave écumeuse aux lèvres.
L'épilepsie, ça dure pas longtemps.
Ouais, mais voilà. Ouais.
Tandis que là, ça
a duré des semaines. Ouais, la danse a démarré le 12 juillet 1518 et s'est terminée fin septembre. Alors donc ça a duré 2 mois et demi.
Voilà, pour les auditeurs qui nous écoutent, ce n'est pas du tout une œuvre de fiction, au sens où, en tout cas, la situation, cette danse, cette hystérie de danse qui s'est emparée de la ville de Strasbourg et de certains de ses habitants, c'est un fait réel.
Oui.
Alors comment vous vous êtes documenté? Comment est-ce que vous avez déjà découvert cet épisode de notre histoire méconnue? Et comment ensuite vous avez procédé pour être au plus près de la réalité?
Alors comment j'ai découvert l'histoire? Je m'en souviens très bien parce que c'était en 2016 et je prenais le train pour aller, train des écrivains pour aller à Brive.
Mm-hmm. Et c'est le train du cholestérol.
Voilà, c'est un train qui est appelé le train du cholestérol parce qu'on arrive à 9h dans le train, 9h30, il commence à nous servir de l'apéro, après les foie gras, tout ça avec du vin blanc, rouge, rosé. Et quand on prend l'apéro à 9h30, c'est quand même un style. Et ben à 11h30, c'est le moment du digestif. Et donc déboule la vieille prune de Souillac. Et alors là,
tous les
écrivains sont torchés. La descente du train à Brive, c'est souvent spectaculaire.
Chaotique.
Et là, je vois un type qui s'amène avec les yeux tout brillants, qui s'appelle Julien Bisson, qui était rédacteur en chef de Lire, qui me dit, Jean, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'épidémie de danse à Strasbourg en 1518? Je regarde ses yeux brillants, je me dis, donc c'est lui le mec le plus bourré du train.
Nous avons un gagnant.
Et voilà, et le soir, je regarde sur Internet et je me dis, mais putain, c'est vrai.
C'est vrai.
Et donc je me dis, effectivement, je vais faire un livre là-dessus.
Là, ce qui est magique avec vous, c'est que vous nous réconciliez avec la lecture. Déjà, tout le monde a envie d'aller à Brive, là, maintenant, je crois que c'est clair. Tout le monde veut prendre le train.
Et à Strasbourg.
Et à Strasbourg
et
pour entrer dans la danse aux éditions Julliard. Alors, ça veut dire que vous avez consulté quoi, des historiens?
Oui.
Après, comment vous êtes documenté?
Il y a eu un médecin suisse qui s'appelait Paracels, qui était un alchimiste et un des pères fondateurs de la toxicologie, qui quelques années après, ayant appris ça, a voulu enquêter à Strasbourg. Mm-hmm. Et c'est grâce à lui qu'on sait le plus de choses et qu'on sait notamment tous les événements de l'histoire de cette danse. Et puis il y a un historien américain, un historien en médecine qui s'appelle John Waller, qui avait écrit un livre là-dessus. Et puis il y a un anglais aussi. Et puis au 19e siècle, il y a des historiens en médecine qui en ont parlé. Donc ce qui fait qu'il y avait de quoi se nourrir. Et c'est une histoire qui normalement devrait être célébrissime en France, mais qui ne l'est pas parce que le clergé, toute cette histoire est la honte du clergé de Strasbourg. Et le clergé a tout fait pour étouffer et minimiser cette histoire. Mais il n'empêche qu'après cette danse, le clergé a été foutu à la porte de Strasbourg pour 150 ans et a déboulé la réforme.
Qui pointait son nez déjà.
Martin
voilà,
Luther.
Depuis quelques
ouais.
mois.
En filigrane, puisque, il y a
voilà,
ça aussi.
Exactement, puisque en octobre 1517 est apparu Martin Luther. Et puis ça a été un changement de religion. Quoi.
C'est ce qui est formidable dans ce livre, c'est qu'à la fois, on est vraiment plongé dans l'histoire. En effet, on voit l'apparition de Martin Luther, des questionnements envoyés à l'Église, des placards postés sur les portes. À oui. l'époque, c'est un peu nos réseaux sociaux actuels.
Exactement, il était très moderne, Martin Luther. S'il a inventé une nouvelle religion maintenant, il serait premier à se servir des réseaux sociaux et tout. Parce que, comme une trentaine d'années avant, Gutenberg avait inventé l'imprimerie et tout, il a fait faire de grandes affiches avec ses 95 thèses contre les indulgences qui étaient placardées sur les portes des couvents, des églises. Et les indulgences, c'était une belle saloperie, ça. Parce que c'était au moment où...
Pas de bêtises, c'était bien pratique.
Enfin, une petite erreur. Alors,
n'allez pas nous vexer, notre père Albert.
Et on construisait la basilique Saint-Pierre de Rome et le pape Léon X...
qui était dans le besoin.
Qui était dans le besoin, qui ne pouvait pas la construire lui-même, c'est sa basilique, proposait que les gens qui donnaient de l'argent auraient des indulgences, des réductions de temps de purgatoire ou d'enfer et tout. Et les gens qui, à Strasbourg, eux, en étaient à bouffer leurs gosses ou les balancer à la flotte, ne pouvaient pas donner d'argent. Et ils étaient menacés d'être enterrés en dehors des remparts de Strasbourg, sur une colline qu'on appelle la colline du Bourreau, qui était la seule terre non bénite de Strasbourg. Donc c'était promesse d'enfer à perpétuité.
Donc double peine.
Double peine, donc vraiment.
Et puis, ce qu'on appelle du hard marketing.
Voilà.
et les personnages, les prénoms même des personnages, ça c'est quelque chose qui vient de vos recherches, de votre documentation.
Pour la première danseuse, on l'appelle toujours Frau Trophäa, qui veut dire dame Trophäa et tout. Et moi j'avais envie qu'elle ait un prénom et j'ai choisi le Enlin parce que c'était le prénom de la femme de Gutenberg qui était une Strasbourgeoise.
Forcément, il y avait un lien, je me disais, avec l'imprimerie, ouais. C'était pas fait au hasard. On reviendra tout à l'heure avec Denis Crouzet, qui est historien sur ces épisodes d'hystérie collective.
Dont j'ai lu deux livres quand j'avais écrit un précédent roman sur Charlie IX, que j'avais appelé Charlie IX, et qui est un historien que j'aime beaucoup.
Ouais. Et ben en plus, vous précisez à la fin de votre livre, vous êtes super honnête, vous listez toutes les œuvres que vous avez pu lire pour vous documenter, mais c'est pas forcément le cas de tous, donc il faut quand même le saluer.
C'est vrai que ça nous fait drôle quand on reçoit des gens.
Ça m'a étonné. Mais pas de gentelé, Et justement, moi, j'aimerais en savoir plus sur votre méthode de travail. Vous travaillez comment? Est-ce que vous travaillez déjà à la maison? Vous sortez pour travailler?
Ouais, j'ai un bureau et à Paris et en Bretagne. Et quand je suis en période d'écriture, c'est de 10h à 19h tous les jours, absolument tous les jours.
Vous êtes réglé comme du papier à musique.
Ouais. Et je m'arrête juste une demi-heure pour manger et pas un jour de vacances, pas un jour de week-end, tout le temps que le livre n'est pas terminé. Ce qui fait qu'une fois que le livre est terminé, après pendant 6 mois, je ne peux plus écrire une phrase. Il faut que je sois en état de transe parce que j'ai toujours peur, si je prends même une journée, de perdre le fil et de plus jamais le retrouver.
Une forme d'hystérie là encore.
Ouais.
Cette transe de l'auteur, d'un coup.
Alors, entrer dans la danse, il y en a un qui s'y connaît en danse, c'est vous en tout cas, Jean-Jacques Lang, mais est-ce que vous avez compris pourquoi Jean Tellet est venu nous voir aujourd'hui?
Mais enfin, entrer dans la danse, Caro Daniello, Leila Carissima, voilà un titre qui envoie du bois. Un titre engageant, excitant, épatant, percutant, emballant, sautillant, déhanchant, trémoussant, chaud bouillant et moustillant. Oui, des tas de trucs en yant, sang et en temps, mais surtout un titre qui pourrait être admirablement résumé tout ce que mon cousin Jack et moi-même avons entrepris depuis notre plus jeune âge. Déjà, quand nous étions enfants à Mirecourt, où nous avons grandi, en échange, pas trop loin de Strasbourg, en échange de leurs bonbons des Vosges qu'ils nous donnaient à sucer, aux solides bûcherons aux bras musculeux qu'ils nous les offraient, nous chantions « Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, galochez qui vous voudrez. »
Vous êtes sûr de galocher?
Oui, c'est une interprétation contemporaine, j'aime bien ça. Plus tard, quand nous sommes arrivés aux responsabilités qui furent les nôtres, Jack au ministère de la Culture et moi à la direction artistique du Banana Café, « Entrez dans la danse, devant comme un autre cri de ralliement qui se transforma vite en entrée dans la dance, puis à l'occasion de la technoparade et de la gay pride, en entrée dans la trance. Un impératif que ne renierait pas, j'en suis sûr, ce cher Jean Tellet qui nous décrit des Strasbourgeois au regard absent, comme possédé, égaré, agité du cul. Mais c'est lui qui l'écrit. Côtes et genoux animés de mouvements spasmodiques lancés dans la peste dansante, la terrible tense pleu. On dirait du Kraftwerk. Mais le plus étonnant, c'est que Jean Tellet ose des anachronismes d'une audace festive inouïe. Ainsi, alors que l'action de cette teuf monstrueuse se situe en 1518, des menuisiers, page 52, clouent les planches d'un immense, je cite, « dance floor ». Page 63, il est question de l'accès, je cite, à la « rave party ». Page 106, dans la cathédrale, je cite encore, c'est un flash mob. Et page 107, tout se passe dans cette ambiance nightclubbing. Mais là, cher Jean Tellet, où vous m'avez scotché, stupéfié, scié, sidéré, bouleversé, interloqué, suffoqué, estomaqué, des tas de trucs. Hein, c'est en révélant que déjà, en 1518, les Strasbourgeois kiffaient c'est Jérôme. Oui, j'ai bien dit c'est Jérôme. En effet, page 64, un homme fou de jalousie, chaud bouillant, en voyant sa femme danser avec un inconnu, s'écrit, je cite...
Et tu danses avec lui. La tête sur son épaule.
Mais voilà, c'est exactement ce que vous écrivez, vous le confirmez.
Absolument.
Alors rien que pour cet hommage à la grande musique et à l'immense c'est Jérôme, qui sait c'est Jérôme, merci Jean Tellet et bonne émission.
Bravo, bravo, merci Jean Tellet. Bravo.
C'est vrai qu'on n'a pas encore eu l'occasion de parler de la langue, de votre langue, et de notamment de ces références anachroniques. C'est que le narrateur, en tout cas, qui prend en charge le récit, qui nous prend par la main, en effet, ponctue son discours de références complètement anachroniques. Albert vient d'évoquer, enfin, le cousin de Jean-Jacques Lang, pardon, Jean-Jacques vient d'évoquer c'est Jérôme. Il y a aussi des références, on a parlé du flash mob, de la technoparade, il y a pas mal de citations comme ça. Hockey Choral, le règlement à Hockey Choral, tout d'un coup, qui vient s'immiscer dans la situation qui oppose le maire aux religieux. Et c'est ce qui fait aussi le sel, je trouve, de ce livre, c'est le sourire du narrateur. Et finalement, le narrateur, c'est vous.
C'est bien d'avoir... Enfin, c'est bien. Moi, j'aime bien mettre un petit pas de côté et tout. Mais je ne fais jamais dire ça à des personnages. Il n'y a pas un personnage qui dit, tiens, on va aller faire une technoparade, un truc comme
c'est
ça.
Le narrateur,
mais c'est le narrateur qui dit ça. Puis, effectivement, le truc de c'est Jérôme, je me disais, les gens, peut-être que personne va le voir, mais
bien
je
glisse, sûr,
faut glisser des petites conneries, surtout dans des situations tragiques. Ouais. Moi, je dis souvent que Jeanne d'Arc, quand elle était sur le bûcher, quand elle avait fini de pisser pour essayer d'éteindre les flammes, à part se marier, qu'est-ce qu'elle pouvait faire, quoi. Donc, voilà. Faut rire de ce qui est pas drôle.
Et ben, c'est vraiment ce qui explique pour moi, voilà, la réussite d'entrer dans la danse, c'est ce mélange entre votre tonalité, la tonalité du narrateur, disons-le ainsi, parce que le narrateur n'est pas forcément l'auteur, et l'histoire en 1500 et quelques à Strasbourg, et ce mélange de temporalité, ce va-et-vient qui fait qu'en tant que lecteur, eh ben, on n'est pas perdu et on reste avec vous.
Oui, puis je me dis, moi de toute façon, je ne m'adresse pas à des gens du 16e siècle, ils sont tous morts, donc je parle la langue d'aujourd'hui. Quoi,
bien voilà. Vu.
J'allais vexer personne en faisant ça, de toute façon. Vous vouliez parler un petit peu cinéma, oui. Et là, je crois que ça avait même fait siffler vos oreilles.
Absolument, parce que quand je pense à vous, Jean Tellet, je pense forcément à l'auteur à succès, mais qui a été aussi adapté au cinéma, au théâtre et même en bande dessinée, et parfois un auteur qui s'adapte lui-même.
Faire de l'Orient, malgré les mers, la banlieue de Charleville, Mézières, la vie d'un seul sur un plateau ivre.
C'est un extrait d'Arthur. Des garçons bouchers, librement inspiré de votre film Rainbow pour Rimbaud, votre premier livre que vous avez vous-même adapté au cinéma, Jean Tellet. Pourquoi cette envie-là de garder votre bébé? Généralement, les auteurs, première œuvre, la confient à quelqu'un d'autre.
C'est une productrice, Michel Ray-Gavras, qui avait lu le livre et qui m'a dit « Je voudrais que vous l'adaptiez au cinéma ». Et donc, j'ai fait ce film. Mais je me suis dit après que j'allais plus en faire, parce que je m'aperçois que... Moi, je sais que je n'aime pas du tout qu'on me donne d'ordre. Et je me suis aperçu que j'aimais pas non plus du tout entonner. Et quand on fait un film, on passe son temps à ça. Et donc, je l'ai fait une fois. Ce film a été primé à Cannes. Il y a eu un petit prix à Cannes. Et donc, je me suis dit, bon, premier film, un prix à Cannes, j'arrête le cinéma.
Vous l'avez abordé sereinement comme ça, c'est-à-dire se lancer tout d'un coup dans la réalisation, alors que c'est pas du tout votre métier.
Oui, mais ça m'a pas tellement plu. Ouais. En plus, je m'entendais très pas bien du tout avec l'actrice principale. Et d'ailleurs, ça faisait rire la productrice. Elle disait, moi, à chaque fois que j'ai fait un film, j'ai toujours vu le réalisateur qui n'avait qu'une envie, c'était de baiser son actrice principale. Et c'est la première fois que je tombe sur un réalisateur qui n'a que envie de la tuer.
Vous auriez pu faire un effort quand même, j'entends.
Et c'est qui cette comédienne?
Eh ben disons, c'est comme un acte manqué, je viens d'oublier son nom.
On va retrouver ça, en tout cas, en 2012, c'est Patrice Lecomte qui a adapté Le Magasin des Suicides. Il y avait eu avant Darling, avec Marina Foïs.
Oui, Guillaume Canet.
En 2017, c'était Fleur de Tonnerre qui donnait lieu à une adaptation. Quand vous écrivez, est-ce que vous pensez au film que ça pourrait donner? J'entends par là, est-ce que vous êtes un auteur qui... Est-ce que vous écrivez avec des images?
Oui, moi j'ai besoin de ça. Je pense pas que ça puisse devenir un film ou quoi que ce soit, mais ayant un passé de dessinateur de bande dessinée, moi quand je raconte une histoire, faut que ça soit visuel. Et d'ailleurs, souvent les gens disent on voit ce que vous racontez. Et quand j'ai un problème sur une scène que je sais pas comment l'aborder, je me la griffonne et ça m'aide. Et il y a beaucoup d'écrivains qui sont beaucoup plus intellectuels sur la réflexion et tout, mais moi je saurais pas le faire, et puis c'est pas mon truc.
Il y a des illustrations dans Entrer dans la danse, voilà, c'est un livre qui n'est pas simplement composé de mots, il y a aussi le recours au dessin, et on retrouve bien là votre passé.
Il y en a 3-4, hein, c'est pas une BD.
Quand même, pas fréquent dans les romans.
Et des dessins d'après des gravures de l'époque.
Alors, est-ce qu'Entrer dans la danse, c'est prévu l'adaptation? Parce que j'ai l'impression que vos bouquins à chaque fois se prêtent tellement bien.
Il y a une adaptation qui normalement va se faire, mais ça me paraît incroyable. C'est un type qui s'appelle Frédéric Chasselin, qui est un grand chef d'orchestre, compositeur et tout, qui veut en faire un opéra-ballet. Ce type-là, il est passé à Paris une journée, je l'ai vu, et il repart pour répéter avec Placido Domingo et tout. Donc c'est vraiment du lourd, et ça serait drôle.
Et c'est un nouveau cas d'adaptation, puisque ça n'a jamais été le cas sur scène.
J'ai eu Charlie Neuf qui a été adapté à l'opéra de Metz. Et ça, c'est quand même marrant, ça, de faire des livres qui sont adaptés, c'est ça, au cinéma, en bande dessinée, en théâtre. J'ai eu deux livres adaptés au théâtre, au théâtre Héberto, l'autre Tristan Bernard. Enfin, c'est assez marrant.
Comment vous sentez, Jean Tellet, que c'est la bonne histoire? Qu'il va falloir y consacrer, je sais pas combien de temps vous avez mis pour écrire Entrer dans la danse.
Parce que c'est quand même un moment
de vie important. Parce que quand je vois la liste des romans que vous avez publiés, votre biblio, je me dis, c'est quand même fou, à chaque fois il fait mouche, il tombe toujours, il arrive toujours en prenant un sujet qui semble un peu anodin ou pas, historique en tout cas, à nous balader, à nous emmener quelque part, et ça marche.
Ouais, je sais pas, c'est comme ça, comme une envie, mais pas que historique. Par exemple, quand j'avais écrit Le Magasin des Suicides, mon éditeur dit, oh là là, tu veux écrire un livre sur le suicide, putain, voilà un sujet vraiment rébarbatif. En plus, tu veux qu'il y ait le mot suicide dans le titre. Je dis, mais bon, on n'en vendra pas un, mais si tu as envie de l'écrire, fais-le.
Et
il a été le premier à dire que il s'était bien gouré, quoi. Mais c'est comme ça, au flair. En plus, moi, j'ai ce luxe que mes livres se vendent très bien et tout. Donc, de faire que ce que je veux. Le précédent livre était pas, comme une respiration, était un livre d'histoire moderne. Le prochain, si je change pas d'avis, sera une histoire moderne. Je fais ce que je veux dans la vie. Ça, c'est quand même carrément bien, ça.
Ça, c'est pas mal. Vous avez quel âge, Jean Tellet?
65.
Et il vous a fallu combien de temps pour faire ce que vous voulez? Pour un message un petit peu d'espoir?
Assez tôt. Et quand j'étais enfant et qu'on me disait, alors, mon petit Jean, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand? Je disais, je veux faire un métier où on se lève quand on a fini de dormir. Et quand j'étais môme, moi, ça m'emmerdait quand ma mère me réveillait en disant faut aller à l'école. Je disais, mais aller à l'école, j'ai pas fini mon rêve. Et maintenant, moi, je me lève que quand j'ai fini mon rêve. Et c'est ça être riche.
C'est ça, être ben riche. Ouais. Voilà, ça c'est la moralité. T'as vu, Daniel, il faut qu'on en prenne de la graine.
C'est ça, j'espère que je vais t'augmenter bientôt. Du coup, Jean Telet est avec nous, vous avez compris, quelqu'un qui se lève quand il a fini de dormir, qui fait ce qu'il veut, il a bien de la chance et nous on est ravis d'être avec lui. Il nous accompagne jusqu'à 12h30 dans la bande originale, deuxième jour sans Nagui. Ah, on respire. Comme dit chez De La Soul, it's run through me. Vous êtes bien sur France Inter.
I love the way it flows, I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song, can move my mood along. But I cannot say you'll hit through my guitar. She told me at the bass line, and everything will be alright. She told me that the groove is mine, it will take us through the night. And where I'll go, can't explain, I'll never know, but it's beautiful. You can't take this away from me, the way I hear the melody, the way it's bringing clarity, running through me. You can't take this away from me. Things, all the joy that it brings. Remember skating down the road towards the park. I could never say no. You with that summer glow. The music gives me sun when winter starts. She told me at the baseline that everything'll be alright. She told me that the beat is mine. It will rock us through the night. But it's beautiful. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me.
Tom Nisch accompagné par De La Soul, It Runs Through Me, Leïla.
Eh ben incroyable cet accent, c'est extraordinaire. Et nous on est toujours avec Jean Telet, qui a profité de ce titre pour finir sa nuit, ses rêves. Vous avez continué un peu à rêver? En tout cas nous, on a passé un très bon moment avec Entrée dans la danse, ce roman chez Julliard. Alors pour nos auditeurs, ne paniquez pas, c'est à peine 150 pages et puis on les voit pas passer. C'est ça qu'il faut dire, c'est même pas une question de taille, c'est une question vraiment de de plaisir.
Oui, c'est ce que...
Oui, j'en étais sûr.
Je m'attendais à un commentaire.
En le disant, je me suis... J'ai senti la percée. Je pensais qu'elle allait venir plutôt de mon côté gauche, à savoir de Daniel. Eh ben non, c'est venu d'en face.
Nous sommes tous vigilants ici.
Bien sûr.
Nous sommes tous complémentaires.
Nous sommes voisins vigilants, bien entendu. En tout cas, c'est un véritable plaisir, Jean Tellet, que de découvrir à chaque fois un nouveau roman, Entrer dans la danse. Ça va être un carton. Ça a commencé plutôt
c'est
bien, là.
C'est un carton, ouais. L'éditeur avait fait un premier tirage à 100 000 exemplaires.
Énorme.
Et ça fait trois fois qu'il réimprime. C'est vraiment incroyable.
Comment vous vivez ça?
Très mal.
Je suis éberlué, j'en reviens pas.
À chaque fois, vous n'en revenez pas, alors que vous savez que vous vendez bien.
Mais à chaque fois, je me dis, ça va s'arrêter. Quoi. C'est un malentendu.
Ils vont me découvrir.
Mais oui, mais bien sûr, un jour, ils vont se rendre compte.
Alors, ça va se voir.
Et pour le moment, ils se rendent compte de que dalle.
Attendez, ça me fait une transition toute trouvée. Il a du mal à se rendre compte de quoi que ce soit, mais bon, on va quand même écouter, c'est la drôle d'humeur de Frédéric Segrist.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on parle danse, Alsace et mort violente. Mm-hmm. Hein, une émission faite pour Leïla. Hein, rappelons que Leïla a longtemps travaillé à Strasbourg, c'est ça, hein,
oui.
Pour Arte.
Oui.
Et quiconque l'a déjà vu danser sur une piste de danse passée 1h du matin sait combien ça peut être dangereux. Mais ce matin, je ne vais pas vous parler de danse, mais de musique. Parce que hier, nous étions chez des amis, ma femme et moi. Hein, et gentrification oblige, on était entre gens de bonne compagnie. Hein, c'est-à-dire qu'on a fait l'éloge de François Ruffin, soupe de courge, boulgour et vin bio acheté chez le producteur du coin. Et soudain, tout en devisant très sérieusement des qualités esthétiques du dernier Kechiche et du génie dramaturge de Joël Pomera, j'ai réalisé que ça faisait plus de 2 heures qu'on écoutait la playlist de France Inter. Et la totale, hein, Eddy de Préto, Juliette Armanet, Dominique A, on se serait cru un jour de grève sur France Inter. Mais parce que quand Inter fait grève, il passe de la musique. Alors je sais pas, est-ce que RTL2, c'est des mecs qui sont jamais venus bosser, je sais pas. Et ça m'a fait un choc. On était une caricature de famille de gauche. C'est le genre de soirée où j'aurais parlé de Laura Adler, personne m'aurait dit c'est qui ? Tout le monde savait. Et c'est dingue, parce que moi, de base, c'est pas du tout mon univers. Moi, je viens d'un quartier HLM où tout le monde connaît Booba, Youssoupha, Sectora, pas Dominica. Quand tu changes de milieu social, tu changes de tenue, mais tu changes aussi de playlist. Quand je vivais encore chez ma mère, à une époque où Michel Drucker faisait encore des émissions debout, elle écoutait Michel Sardou. Tu sais, le chanteur qui a la joie de vivre indexé sur le taux de chômage. Ah, sur les photos de passeport, Sardou, c'est le seul Français à qui on demande de sourire, histoire d'avoir un visage neutre. Michel Houellebecq, à côté, on dirait un animateur de spectacle pour enfants. Eh bien, moi, je l'avoue, Sardou, ça me fait tout drôle de dire sur France Inter, mais j'adorais. Le rire du sergent, le lac du Connemara, le temps béni des colonies. Parce que j'étais convaincu qu'il faisait du second degré. J'étais con, hein. Pour moi, à l'adolescence, mes humoristes préférés, c'était Les Inconnus, Les Nuls et Michel Sardou. Je croyais qu'il déconnait. Le mec, il a fait chanter un bateau. Ne m'appelez plus jamais France.
Tu chantes
la
bien.
France, elle m'a laissé tomber.
Je suis pas sûr.
Un mec capable de faire chanter un bateau, mais il peut tout faire chanter, quoi. Il peut faire des chansons sur le testament sur le foie de Johnny, les couilles de Lance Armstrong, enfin, le temps béni des colonies, c'était collecteur.
On pense encore à toi, son bonheur.
Pas de café, pas de coton, pas d'essence. En France, mais des idées, ça on en a nous, on pense.
Il n'y a pas de café, pas de coton, pas d'essence en France, mais des idées, ça on en a, nous, on pense. Mais c'est du génie. 15 ans avant Éric Zemmour. Niveau second degré, moi je mettais ça au niveau des sketchs d'Élie et Dieudonné. Et puis un jour où j'étais chez mon père, avec des amis à lui, en visite de Guadeloupe, parce que mon père est guadeloupéen, j'ai chanté ça. Et je me suis rendu compte que le second degré des chansons de Sardou n'était pas arrivé jusqu'à Basse-Terre. Ah, ils m'ont pourri d'une force. Après, j'ai eu ma phase rap, avec des chanteurs qui parlaient vrai, tu vois, qui dénonçaient les problèmes que j'avais pas, hein, la drogue, les guns. Moi, j'étais plus sur une problématique livre en retard à la bibliothèque et titre de transport pas composté, mais le malaise du gâteau était du ghetto.
Toujours la bouffe, franchement.
Ensuite, j'ai rencontré mon épouse qui m'a fait découvrir Barbara, Brassens et Brel. Oui, ma femme est médium et mélomane. C'est-à-dire qu'elle écoute que des chanteurs morts. Et elle veut bien écouter David Bowie que depuis l'année dernière. Hein. Oh. Et ensuite, j'ai eu ma période Benabar. J'aimais bien ses textes. C'était pas des chansons, c'était des blogs. C'était des trucs du genre « Les chaussettes, quand il y a les trous, c'est pas pratique. » On les cherche dans le panier, mais elles sont dépareillées. Les chaussettes, ça protège les orteils. C'est sûr, c'est moins utile si on les met sur les oreilles. Ah, les chaussettes, c'était top. Ensuite, j'ai eu ma période Vincent Delerme. Alors lui, c'était encore mieux, c'était un nom, un prénom et une adresse.
Ce matin, j'ai bu un café rue Faubourg Saint-Honoré, mais je fus bouleversé en croisant Ludivine Sagné.
Ensuite, je veux dire, maintenant j'écoute des artistes complètement différents, comme Stromae.
Tu aimerais faire de la faire aussi.
Qui n'a absolument rien à voir avec Aurel San. Et puis, Eddie de Préto, n'en parlons même pas, rien à voir.
C'est la fête de trop. Moi, je l'ai fait, des fêtes, et ça, jusqu'au fiasco, c'est la
voilà.
fête
Donc, que de des trop. Jeunes qui font la fête, hein. Faudrait peut-être qu'ils se mettent un jour à bosser si on veut relancer la croissance de ce pays. Comme quoi, dans la musique, même sur France Inter, ce qui compte, c'est avant tout la diversité.
Bravo, Frédéric Sigris.
La bande originale sur France Inter.
Bande originale qui a la chance de recevoir Jean Tellet jusqu'à midi et demi pour rentrer dans la danse chez Julliard.
Et on continue ensemble avec la bande originale de votre vie, mon cher Jean Tellet.
Et on commence en 1987. Rita Mitsuko, et ça correspond à l'époque chroniqueur télé.
Ouais,
L'assiette anglaise, qu'est-ce que c'était bien
Bernard
ça,
Rapp,
Bernard Rapp. On trouve encore des extraits sur Internet pour les mélancoliques.
Encore très 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 souvent à ce beau monsieur qui s'était comporté de façon tellement classe avec moi. On se souvient que, parce que cette émission elle a duré que 2 ans, à la fin de la première année, il y a Contamine, qui était le président, je ne sais pas quoi, France Télévisions, qui lui dit l'émission marche très bien, il n'y a aucun problème et tout. Donc on la renouvelle. Il y a juste un détail. C'est le grand avec les bouclettes là et tout. Je le trouve grossier et tout. Faut que vous,
ça,
faut,
vous.
Faut que vous le viriez. Et Rapp lui dit, si vous m'obligez à me séparer de lui, j'arrête l'émission. Et il redescend au bureau sans me le dire. Oui. Il me l'aurait dit, moi j'aurais mis la pédale douce pour pas l'embarrasser. Mais ne sachant rien, moi je continuais mes conneries et tout. Et j'ai appris ça à sa mort. Donc le mec non seulement il vous sauve, mais en plus il vous le dit pas. C'est la classe.
C'est
absolue.
L'élégance. Ouais, ouais. C'est bon assez homme. Rare pour
les
être souligné.
Les portraits d'écrivains aussi, toute la
Oui,
la
c'était bien.
Exceptionnel.
C'était
bien, exceptionnel mais...
Et à cette période, vous êtes aussi un petit peu après dans Nulle part ailleurs, sur Canal+.
Ouais.
Et en 84, un tout petit peu avant, vous dessinez pour un journal BD. C'est au moment de l'affaire du petit Grégory.
Ah oui, puis et c'était pour un journal qui s'appelait Circus, où ils avaient demandé au dessinateur, c'était un truc spécial star, de chacun faire une BD là-dessus. Alors il y a des gens qui faisaient sur Marilyn Monroe, ouais. sur je sais pas quoi. Et puis on était en plein dans l'affaire du petit Grégory. Et moi j'avais m'étais dit, ben, s'il y a une star, c'est la mère du petit Grégory dont on parlait beaucoup. Et j'avais fait une BD là-dessus. Et puis poum, je me suis mis à faire des bandes dessinées reportages.
Sur les mystères judiciaires.
Ouais. Et j'allais partout dans plein de villes chercher des dingos et je les trouvais de plus en plus facilement. Et Choron disait de moi, quand Tellet arrive dans une ville, les fous sortent.
Ils se mettent à danser.
Une fois, j'arrive à Angoulême, je ne savais pas du tout ce que j'allais y foutre et tout. Et je tombe sur un mec qui vient voir directement en me disant, je suis en train de construire une soucoupe volante en bois pour emmener ma mère mourir sur Altaïr. Je dis, formidable. Et j'ai fait aussi ça. Et tout m'arrivait comme ça.
C'est ça votre secret, en fait, vous faites sortir les fous qui viennent vous raconter des
mais
histoires.
Mais c'est ce que me disait, Choron.
Et Choron était un expert.
Oui.
1991.
Elle prend son café.
Stéphane Echier, Déjeuner en paix.
Sur des paroles de Philippe Djian. Et moi, j'aurais bien aimé avoir ce talent de Djian et de pouvoir écrire pour un chanteur de qualité comme elle est chère.
Ouais, et écrire des romans aussi en parallèle qui marchent très très bien et qui sont très beaux. Ouais. 91, Jean Tellet, on vous parle cette année parce que c'est la publication de votre premier roman. On l'a évoqué tout à l'heure, Rainbow pour Rimbaud. Une histoire un peu atypique, un jeune homme, 36 ans, Robert, qui vit chez ses parents.
Voilà.
À Charleville-Mézières.
Et qui adore Rimbaud et qui se prend pour Rimbaud et qui prend Rimbaud au pied de la lettre. Il veut tout faire comme Rimbaud, ce qui le met que dans des situations ridicules Et voilà, ouais.
Et c'est une sorte de voyage aussi avec sa compagne du moment, Isabelle, qu'il rencontre, et ils vont sur les traces de Rimbaud. Et donc c'est aussi, vous nous emmenez au Caire, à Dakar, à Tarafal, partout où Rimbaud a été. Est-ce que ça c'est aussi une façon d'amener une forme de culture avec un peu de divertissement?
Mais c'est exactement ça. Je me disais, essayer de, dans une histoire moderne un peu marrante et tout, d'emmener les gens vers ce truc invraisemblable qui s'appelle Arthur Rimbaud, qui est une anomalie. C'est une forme de monstruosité, Rimbaud. C'est comme si à la naissance, il avait eu 4 louches de trop. Quoi. C'est même pas compréhensible qu'il y ait un être apparaissent comme ça sur Terre. Arthur Rimbaud.
Et en 91, quand vous vous lancez dans l'écriture, enfin, c'est la publication, donc vous avez sans doute commencé peut-être 2 ans avant, ça faisait un moment que vous écriviez, il y avait d'autres manuscrits dans les tiroirs, ou c'était votre première fois?
Moi, j'ai jamais voulu faire écrivain, c'était quand j'étais à Canal+, où un jour, une éditrice, Elisabeth Gilles, m'appelle en me disant, ça fait des années que je vous entends à la télé, ça fait des années que je me dis qu'en fait, vous êtes un écrivain qui ne le savait pas. Venez, je vous signe un contrat. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et alors que moi, je ne lisais pas de romans, et que je n'en lis toujours pas, d'ailleurs.
Ah, c'est vrai, jamais.
Non, pratiquement. Je crois que j'ai dû lire 40 romans, moi, dans ma vie. Ouais. Je lis beaucoup de livres pour apprendre des choses, des livres d'historiens.
Vous documentez,
Mais des romans, non. Bah, je passe mes journées à en écrire. Je arrive à la maison, je ne vais pas me dire, ah tiens, pour me détendre, je vais lire un roman. Bah, c'est la journée à ça.
C'est bien, ça déculpabilise.
Non, mais ça a l'air facile, la vie avec Jean Telet.
Oui, c'est vrai.
Ouais, je ne voulais pas écrire. Et puis on me dit, bah tiens, toi, un écrivain, tu le sais pas, vas-y,
je voulais pas me lever, je voulais dormir et je reste dormir.
On passe en 2013.
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables.
Stromae avec Formidable.
On est en 2013 donc, et c'est la publication de Fleurs de Tonnerre qui a été adaptée. C'est quand même une histoire terrible, c'est l'histoire de cette empoisonneuse aux 37 victimes, ça se trouve il y en a plus, mais bon, voilà. Les histoires que vous racontez, le magasin des suicides, à chaque fois c'est pas très gai.
Pourquoi donc ?
Ça vous vient d'où cet attrait pour les histoires?
De ma mère.
C'est-à-dire
quand j'étais môme, elle me racontait que des histoires horribles et qui me marquaient beaucoup. Je me souviens notamment du fois où elle m'a, mais j'étais tout petit, elle m'a raconté qu'elle avait appris qu'il y avait un motard qui, sur une route, doublait un camion qui transportait des plaques de tôle, et qu'il y avait une plaque de tôle qui avait glissé, qui avait coupé la tête du motard, et qu'il
avait continué sa route.
Voilà, et ça me foutait des trucs dans la tête, et je crois que c'est à cause de toutes ces histoires-là que j'étais marqué au fer rouge à raconter que des histoires.
C'est
à la
peut-être un bon conseil qu'on peut donner aux mères de famille qui nous écoutent. Racontez des horreurs à vos gamins, voilà. Peut-être qu'ils réussiront comme écrivain.
Apollinaire avait écrit les 400 coups.
Ouais.
C'est 4 garçons qui avaient été décapités.
Et pour revenir à Fleurs de Tonnerre, on dit souvent que l'écriture fait du bien. Là, c'est tout le contraire.
Ça
vous a rendu malade. Ça veut dire quoi?
Presque à chaque livre, je chope une maladie en fonction du livre. Là, Fleur de Tonnerre, donc c'est l'histoire d'une cuisinière. Elle arrive dans une famille, elle fait à bouffer, ils ont mal au ventre, ils crèvent. Elle passe dans une autre famille, ça et tout ça. Moi, je commence à écrire mon livre. Et au bout d'un moment, je sens que j'ai un peu mal au ventre. Et puis je continue, puis j'ai de plus en plus mal au ventre. Je me dis, putain, je me suis chopé 15 cancers. Je vais voir un proctologue. Et alors ça, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même un truc, ça, les proctologues. On dit bonjour monsieur, surtout avec 2 doigts dans le cul. Depuis, pas une carte postale, pas un tournalisme me manque. Je suis pas tombé sur un romantique. Et après, il me fait faire une coloscopie, ça, c'est aussi spécial, ça.
Avec le colopée.
Et après, il me dit, vous n'avez rien. Mais il savait ce que j'étais en train de faire. Et moi, j'ai une ordonnance de proctologue sur laquelle il y a écrit, l'empoisonneuse doit disparaître. Et à chaque fois, c'est des trucs comme ça.
Il vous a intimé l'ordre de finir ce roman, pour en finir avec la maladie.
Et en écrivant, entrer dans la danse.
Fleur de Tonnerre, ouais.
En écrivant, entrer dans la danse, pas de... Mais
j'arrêtais pas de gesticuler un petit peu la tremblotte, voilà.
Un petit flash mob avec Jean Telet, on pourra organiser ça à Radio France, ça pourrait être pas mal.
D'ailleurs, à propos de flash mob, la municipalité de Strasbourg, comme il va y avoir une grande exposition sur la danse de 1518,
pour fêter votre vie,
voilà, ils m'ont promis de me faire venir et de découvrir déclencher une flash mob devant la cathédrale et que tout le monde se mette à danser autour de la cathédrale. Et ça, ça peut être rigolo à condition que ça finisse pas comme dans le livre. Encore que ne serait-ce que d'un point de vue strictement commercial, ça peut être.
Et comme dans le livre, il y aura de la danse dans la cathédrale.
Mais peut-être pas dans la cathédrale, mais autour, ça peut être drôle. Ça.
Alors justement, pour évoquer cet épisode d'hystérie collective, Denis Crouzet, bonjour, vous nous avez rejoint, vous êtes historien, vous enseignez l'histoire moderne à l'université Paris 4 la Sorbonne, et vous avez publié récemment Charles Quint, empereur d'une fin des temps, chez Odile Jacob. Vous êtes spécialiste de ce concept-là d'hystérie collective. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner une petite définition? Comment ça se caractérise, cette hystérie collective?
C'est-à-dire que les corps dans l'hystérie collective se défont progressivement de toute relation avec le réel, deviennent des sortes de mécaniques, et à ce moment-là, l'esprit peut venir chez ceux qui sont possédés et ils peuvent parler, dire, soit symboliquement, comme dans le cas de Strasbourg, soit alors directement en citant la Bible qu'ils ne connaissent pas, en annonçant la fin des temps, en étant donc en situation de transe.
C'est stupéfiant. Alors justement, l'épidémie de danse qui a eu lieu à Strasbourg et dont parle Jean Tellet dans son livre, ça a tous les critères de l'hystérie collective de ce point de vue-là.
Oui, avec ce fait intéressant, c'est que ce sont les femmes, une femme d'abord, puis des femmes qui donnent la tonalité à cette souffrance corporelle.
Alors hystérie, c'est quoi? Ça vient du utérus, c'est pas ça l'histoire?
Alors,
on a souvent marqué les femmes d'hystériques.
Les femmes auraient une prédisposition.
Les hommes ne le sont jamais.
Mais bien sûr, voilà, c'est ça, j'adore.
Auraient une prédisposition à l'hystérie en fonction de vapeurs qui pourraient monter de l'utérus et jusqu'à la tête. Mais beaucoup de trans sont masculines aussi, dans des sociétés qui peuvent être malgaches ou...
Le diwan de Biskra, c'est
exactement
ça.
Aussi.
Alors,
c'est notre vision qui fait que la femme intervient plus en Occident, peut-être parce que c'est une occasion pour elle de reprendre le pouvoir en annonçant des événements qui peuvent être dramatiques ou alors en fixant, comme lors de la possession de Loudun en 1627, une responsabilité sur les hommes en 1632.
Qu'est-ce qui s'est passé en 1632?
Dans un couvent d'Ursuline, des sœurs se mettent à voir un fantôme. Ce fantôme serait leur ancien confesseur mort, mais progressivement, il s'avère que ce serait plutôt le curé de la ville, Urbain Grandier, accusé de complaisance à l'égard des protestants de la ville et aussi d'être opposé à la politique de Richelieu. Et le drame devient à ce moment-là un drame visuel avec la mort exécutée de ce prêtre.
Alors pour revenir à cette danse collective à Strasbourg, il y a plusieurs scénarios qui sont avancés pour expliquer, parce qu'on a besoin de comprendre. Et c'est ça, les médecins, on le voit dans le roman de Jean Tellet, tentent des hypothèses. Vous évoquez un moment, d'ailleurs, ça je ne connaissais pas, comment on peut avoir des hallucinations par un mélange de seigle contaminé.
Oui, c'est l'ergot de seigle. Et l'ergot de seigle, c'est le LSD à l'état pur. D'ailleurs, le LSD, c'est la reconstitution de la moisissure de seigle.
Alors, sauf qu'à l'époque, c'était pas possible parce qu'il y avait pas suffisamment de céréales, donc ça ne pouvait pas venir de ça. Donc
et puis qu'en plus, l'ergotisme a une particularité, c'est de diminuer l'afflux sanguin dans les membres, donc empêche mécaniquement de danser.
Le mouvement.
Et certaines autres manifestations viriles.
Ce qu'on pense, et ce qui est la thèse la plus répandue, c'est que cette période de début de XVIe siècle est une période d'angoisse, de la fin des temps, du jugement de Dieu, du péché humain. Il y a un prédicateur qui est mort depuis 6 ans à Strasbourg, mais qui s'était déchaîné contre les vices, la débauche, tout ce que vous voulez.
Brave homme.
Et que donc, c'est cette femme possible, trop fea, dont on ne sait pas si elle a vraiment existé, prend la parole par sa danse pour essayer de se guérir elle-même de cette angoisse qui fait que chacun pourrait se sentir coupable, et que la danse, c'est qu'un peu comme les rave parties d'aujourd'hui, pour reprendre l'actualisation des termes, on se crée un hors-monde qui fait que tout ce qui peut être oppressant, angoissant, disparaît. Et ce hors-monde, il peut aller jusqu'à ses pieds qui n'ont plus de peau, saignent, ses articulations saignantes aussi, et une forme de conduite qui peut aller jusqu'à la mort, à force de vouloir se détacher de cette oppression du temps présent et du mal de vivre. Et on peut manger donc l'immonde, et là, la vision gargantuesque que vous avez est tout à fait pertinente.
Sachant qu'il mange, à un moment, l'Église se dit, en lien avec le pouvoir, qu'il faut donc les nourrir, peut-être que la nourriture va cesser cette épidémie rampante, dansante, on va dire, et ils se rendent compte que, hélas, ils ne s'arrêtent jamais de danser, donc la nourriture rentre par quelque part, elle doit forcément sortir par quelque part. Et la bière et les Strasbourgeois, ça y est, un petit clin d'œil. Fred, une question.
Mais justement, en fait, ça me rappelle énormément, en lisant le livre, les Bacchanales, où il y avait effectivement des femmes qui dansaient comme ça en transe, et il y avait même des scènes d'anthropophagie qui étaient ensuite décrites. Et est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi à faire avec ça?
Il y a une longue tradition des transes. On pense même que les grottes peintes de Lascaux et autres n'étaient pas destinées à être habitées, mais étaient des lieux dans lesquels se rassemblaient les hommes et les femmes pour essayer d'entrer en contact avec les esprits via un chaman qui dansait, et que les mains qu'on voit sur les parois ne sont pas là par hasard, c'est pour essayer d'attraper les esprits. Il fallait mettre sa main dans la main pour que les esprits viennent jusqu'à vous. Et puis alors, les bacchanales, le culte de Cybèle, où les prêtres allaient jusqu'à s'émasculer dans la transe, et alors une longue tradition qui va jusqu'au tromba de Madagascar, jusqu'aux collégiennes de Tanzanie prises dans un pensionnat d'une épidémie de fou rire.
Oui, c'est ça. Oui, j'avais vu cet épisode-là d'un rire collectif qui ne s'arrête pas.
On a beau fermer le pensionnat, les renvoyer dans leur village ou leur ville, elles continuent à rire et elles contaminent par leur rire d'autres.
Contagieux.
C'est un rire contagieux. Le rire fait aussi partie de cette volonté d'oublier le présent, de se mettre à part du présent et de créer une temporalité qui n'est plus celle des duretés du présent.
La Tanzanie, c'est un événement récent.
C'est 1962.
Oui, donc c'est pas si vieux que ça. Et dans le roman de Jean Tellet, on voit bien comment le pouvoir et l'Église parviennent à négocier après cet épisode, parce qu'il y a toujours une façon d'expliquer les choses et d'avoir une version officielle de l'histoire. Est-ce que à chaque fois ça a été exploité, notamment par l'Église, qui a besoin de chasser ses démons, ou alors de continuer à orienter la population dans une direction?
Ouais, l'Église a toujours fait attention à contrôler ces phénomènes. En 1566, on a près de Beauvais, d'Amiens, une femme qui se met à être saisie de crise de tétanie après avoir vu le portrait de son le fantôme de son grand-père passer. Elle immédiatement elle est prise en charge par l'Église, elle va être emmenée jusque dans la cathédrale de Laon, grand cérémonial d'exorcisme dont le sens en réalité est de montrer que les démons qui sont rentrés en elle peuvent être expulsés par l'Eucharistie, par la présentation de l'Eucharistie, et donc dans un grand vacarme, Belzébuth, Astaroth sortent, et c'est un enseignement évidemment destiné à contrer les protestants qui ne croient pas en la présence réelle. On est toujours dans une instrumentalisation, et je citais toujours le massacre de la Saint-Barthélemy, il y en a un à Paris, mais il y en a un aussi à Orléans, quelques jours après, et il y a des étudiants allemands qui sont planqués dans une chambre au premier étage d'une taverne terrorisée, et les massacreurs, parce que le massacre dure plusieurs jours, viennent manger, les bras couverts de sang, histoire de reprendre des forces, et aussi ils dansent sur les tables,
d'accord,
comme si il fallait qu'ils se dépossèdent eux-mêmes de leur rapport au réel pour tuer.
54 ans, en effet, plus tard, après cet épisode de la danse à Strasbourg, débute la Saint-Barthélemy. Vous y faites mention, Jean Tellet.
Qu'est-ce que c'est rapide, 54 ans seulement. 54 ans entre l'apparition de la réforme et la Saint-Barthélemy. Ça a été une vitesse. On a l'impression que maintenant, ça pourrait, avec les réseaux sociaux,
se diffuser aussi
vite. Mais déjà au XVIe siècle, que ça allait vite. Hein.
Merci beaucoup, Denis Crouzet.
Merci
d'avoir apporté votre éclairage. Et je rappelle, Charles Quint, Empereur d'une fin des temps, c'est votre dernier livre qui est paru chez Odile Jacob.
Et moi, j'avais lu un livre sur la Saint-Barthélemy de M. Crouzet qui était drôlement...
Juste à rajouter, Charles Quint est intéressant parce qu'il a une crise d'épilepsie en 1519. Il reste 10 heures étendu sans vie. Et quelques années après, un ambassadeur vénitien dira qu'il avait peur des araignées. Et l'araignée est, dans la culture méditerranéenne, l'insecte qui peut donner le mal, une sorte de prostration que l'on ne peut soigner que par la musique et par la transe. Alors c'est intéressant de voir
le lien
avec finalement Charles Quint, lui, avait peur de tomber en situation d'hébétude comme les victimes de la tarentelle.
Merci Denis Crouzet, merci à vous.
Alors chez vous, si vous sentez un petit peu stressé, vous avez compris, vous mettez à danser, normalement, ça devrait aller mieux. Après,
en exutoire.
Voilà, exutoire total. En deuxième heure, Tanguy Pastureau va maltraiter l'info, mais Tanguy est déjà parmi nous.
Oui. Salut Tanguy.
Bonjour.
Alors
bonjour,
Tanguy, Tanguy, vous le savez, je vous aime à l'ancienne et je vous regarde intensément.
Oui, moi aussi, Daniel, parce que nous sommes tous deux âgés et ringards et ne sommes donc pas occupés à consulter des applis tendances sur nos smartphones. Mais les plus jeunes ou les plus branchés sont toute la journée sur leur 06. Même quand on leur parle, ils nous snobent, c'est pourri. Et le fait de préférer son portable à l'ami qui est en face s'appelle le fubbing. C'est ce dont je veux.
Le fubbing, ce sera avec Tanguy Pastureau. Juste après les infos, Léla, on est ensemble jusqu'à 12h30 avec Jean Tellet pour...
Entrer dans la danse aux éditions Julliard et on a adoré.
C'est le retour de la bande originale avec Albert Algou.
Bonjour.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Dans quelques instants, Tanguy Pastureau qui va maltraiter l'info. Et toujours à mes côtés, la douce Lila Kadour Boudani.
Salut Daniel Morin, bonjour à tous. La suite de la bande originale avec
Jean Tellet. Bravo.
Jean, toujours à nos côtés pour entrer dans la danse aux éditions Julliard. Cette histoire incroyable, mais pourtant vraie, qui a eu lieu à Strasbourg. On est au XVIe siècle, en 1518 plus précisément, qui débute par un infanticide et qui conduit cette femme, ce patient zéro, parce qu'il en faut toujours pour une épidémie, à se mettre à danser dans la rue, dans une ville, dans un pays où la misère règne en maître. Et tout d'un coup, ce mouvement se propage. Et tout le monde se demande si il va être lui aussi l'objet de cette hystérie collective et comment on va trouver la solution pour endiguer ce phénomène, Jean Tellet.
Ouais, une drôle d'histoire. Mais c'est vrai qu'il leur est tout arrivé à Strasbourg en concentré. Et donc la famine, un tas de maladies, la peste, la lèpre, le choléra, machin, la syphilis qui a déboulé au mois de mai dans un quartier de Strasbourg. Vous connaissez la petite France.
La petite France. Ouais.
Et il y a eu une série de naissances de siamois.
C'est vrai.
Mais putain, les enfants qui naissent de par deux soudés l'un à l'autre, est-ce que Dieu est devenu fou? C'était au moment où déboulait une nouvelle religion, donc c'était un vrai bordel. Il aurait tombé même une météorite au ras de la ville. Et Jean disait, mais si même les étoiles se mettent à nous chier dessus, et ils en étaient là, et du coup ils sont tous mis à danser comme des cons. Quoi.
Et c'est un récit passionnant parce que non seulement vous faites intervenir le responsable, le bourgmestre, on va dire, de la ville, les religions forcément, qui tentent aussi de tirer parti, qui tentent de ne pas trop donner à leur prochain.
Mais de rien donner du tout, parce que le maire le bourgmestre avait qu'on appelait un Almeister, avait prévu des greniers pour en cas de disette, pour donner à manger à la population. Mais une fois qu'ils avaient vidé leurs greniers et que les gens recrevaient de faim, le clergé qui avait des couvents, des églises remplies de céréales, de salaison, de choux aigres, de bière et tout, a refusé d'ouvrir les portes pour spéculer, pour essayer
pour
de gagner
négocier.
Encore plus d'argent et tout. Et donc, ils se sont comportés, mais comme des monstres. Quoi.
Alors, on ne dévoilera pas à la fin de ce livre, de cet épisode.
À la fin, qui a été rock'n'roll, parce que ça a été le clergé qui a réglé le problème, et il l'a vraiment réglé.
Et il y a d'autres épisodes aussi précédents qui ont été évoqués sur la gestion de la ville par les officiels. Cette fois-ci, on parle du bûcher de 1600 juifs de la cité.
Mais oui, ça, c'était...
Pour régler des dettes.
Ah oui, parce que...
On ne peut pas rembourser, on les brûle.
C'était arrivé plutôt. c'est que tous ceux qui tenaient la mairie étaient tous endettés auprès des juifs. Et ben à un moment, ils ont décidé de régler le problème.
Ils ne pouvaient pas être propriétaires terriens et qui donc avaient l'argent.
Sur le cimetière des juifs, dans un endroit qui s'appelle maintenant la rue Brûlée à Strasbourg, ils ont foutu les 1600 juifs et ils ont cramé. Et puis voilà, puis il n'y avait plus de dette.
Donc vous l'avez compris, c'est un roman passionnant parce que non seulement il vous fait découvrir un épisode complètement inconnu, méconnu de notre histoire, cette hystérie collective. Vous vous promenez ainsi dans Strasbourg en 1518. Vous en apprenez aussi, si vous avez besoin de revoir, l'apparition de la réforme, Martin Luther. C'est à la fois réjouissant parce que le narrateur, qui est un peu votre voix, je l'entends depuis tout à l'heure, a ce petit côté malicieux, ces clins d'œil incessants à l'actualité du moment ou à des références qu'on connaît bien et qu'on maîtrise.
Je dirais plutôt qu'il est malade, Jean Tellet.
Non, vraiment, c'est un bonheur, Jean Tellet, de vous lire à chaque fois.
Ah, c'est trop gentil, merci.
Voilà. Ça, c'est le fait de bien dormir et de se lever quand on a fini de dormir. Ouais. Lui, j'espère qu'il est bien réveillé. C'est Tanguy Pastureau qui maltraite l'info. Tanguy, nous sommes totalement accros à nos téléphones portables.
Oui, Daniel, ainsi moi, je préfère largement mon portable à vous. D'abord parce que je peux le toucher sans avoir à lui payer un coup à boire avant. Et puis lui n'est pas là à me dire « mais enfin, j'ai une femme, un enfant, j'ai trouvé mon équilibre ». Mais surtout parce qu'il m'apporte des tas d'infos. Grâce à Google Maps, je peux voir quelles rues à Paris sont bloquées par les embouteillages, hein, donc toutes. Grâce à Wizard Pro, je peux voir quelles journées seront pourries niveau météo, donc toutes. Grâce à Billets Réduc, je peux voir quelles dates sont encore dispo pour les concerts de Chaim. Donc, toutes. Bref, nos téléphones nous sont indispensables, comme l'est le tampon Jax à l'amateur de haut plat qui, comme la vaisselle, n'a pu se payer qu'un ProLine à 89 euros. D'après une étude, un Français sur deux préfère se priver de sexe que de portable. Ah bon ? Ce qui est logique, parce que le portable, c'est de la technologie pure. Alors qu'un sexe, c'est nul, c'est moche, c'est un frein à la pratique du Vélib, c'est vieillot, le masculin notamment ne dispose que de deux positions, puis une seule au fur et à mesure qu'on avance en âge. Et puis, il est impossible de consulter les infos avec son sexe. Hein, ce qui fait que les gens qui s'en servent beaucoup sont déconnectés. Moi, j'ai un oncle qui passe son temps au Cap d'Agde, et ben il ne sait même pas que Macron a été élu il y a un an. Hein, il se dit, Hollande, il ne fait plus rien, on ne le voit plus, j'espère qu'il n'est pas mort. Alors, les Français consultent leur téléphone en moyenne 26 fois par jour. Jawad Ben Daoud de Saint-Denis se connecte, lui, 40 fois par jour à l'appli seloger.com. Hein, là, il a des Pakistanais qui cherchent un F2. Ils lui ont dit que c'était pour faire pousser des roses. Les jeunes, cette communauté malodorante arborant des coiffures apocalyptiques, consultent, eux, leur smartphone plus de 50 fois par jour. Dans certaines familles, on ne communique plus que par émoticône. Hein, il n'y a que quand papy chope la jeunisse et ressemble au smiley vieux sur iPhone que ses petits-enfants acceptent de lui parler. Pire, 81% des gens consultent leur téléphone à table alors que leurs proches sont là. Hein, c'est chacun dans sa bulle, quoi. Le père discute sur Tinder avec Lilou 78 hot. À la fin, il confond tout. Il veut demander le sel à sa femme qui est à côté. Il se met à crier « Dis-le-moi que je suis ton gros ours qui va bien croquer ta gaufrette au miel ». Pendant ce temps, la mère sur son iPad fait défiler sur adopteunmec.com les fiches de types qui en vrai ressemblent autant à leur photo de profil qu'un McChicken dans son papier au McChicken qui était sur l'affiche. Et les gosses discutent sur Snapchat avec leurs potes qui tous ont des oreilles de chat et des truffes de qu'elle. Hein, ce sont plus les pédophiles qui viennent les draguer, ce sont les mecs de la Fondation Bardot. Bref, notre époque est un enfer.
Mais Tanguy, le fait de se concentrer sur son téléphone portable, plus que sur ses proches, ça porte un nom.
Oui, absolument, Leïla. Ça s'appelle le phubbing. Hein, ça signifie qu'on snob les gens autour de soi. Là, par exemple, je vous parle. Oui. Hein, pas par envie, mais parce que c'est mon métier. Et ben, si Daniel, au lieu de m'écouter, surfait sur la page Doctissimo consacrée à l'hyperpilosité, eh bien, je le prendrais mal, parce que c'est un moment d'échange. C'est un instant humain où nos émotions se rassemblent et où nous allons dans le même sens, c'est-à-dire la fin de l'émission pour pouvoir se casser. Seulement, là où il y a 20 ans, j'aurais pu faire une chronique médiocre, hein, parce qu'il y a zéro concurrence, à part un vieux Minitel dans un coin du studio où les gens tentaient de faire 36-15 Jacques Vendroux pour vérifier si on pouvait le voir à poil. En 2018, je sais que si cette chronique retombe, dans 7 secondes, vous êtes tous sur vos portables. Et pour maintenir le lien qui nous unit, je suis obligé de créer des moments d'intensité factice, en disant par exemple, qui veut de la drogue ? Il y a Noël Gallagher en novembre qui a oublié une de ses 4 palettes. Ou alors, quelqu'un veut voir mon 12e téton ? Voir quand vous n'êtes plus du tout dedans, en hurlant, Allah Akbar, vous allez payer pour la Syrie, fils de chien. Et là, tout le monde pose son téléphone direct. Il y a 20 ans, quand sur Inter, c'était Ruquier, le truc le plus fort qui pouvait entrer en concurrence avec votre chronique, c'était Claude Sarraute qui racontait la fois fois où à la boulangerie, elle a pris Berthe Silva pour Georgette Lemaire, vous étiez peinard. Le phubbing, c'est horrible. Parfois, je parle à quelqu'un. Et là, une alerte Morandini prévient qu'Hanouna a dit du mal de Jérém Star, lequel a clashé Castaldi, qui a crevé les pneus de Nabila, qui a dit je m'en fous, j'ai toujours mes ins, et la pression dedans est la même, je viens de les faire contrôler chez Total. Eh bien, je vois le regard de la personne glisser de mon corps pourtant félin et nourri à l'île d'Argan vers son 06 pourri. Et intérieurement, je hurle, je serais prêt à imiter Siri afin de garder l'attention de la personne sur moi. Hein, c'est moi, tout à l'heure, Leïla, qui vous ai dit « Bonjour, Leïla Baruch Spinoza est née le 24 novembre 1632 à Amsterdam. » Juste pour que vous pensiez que j'étais le site internet de Philosophie Magazine et avoir votre attention. Alors certes, le portable a des avantages. Si Ayrton Senna en 94 avait eu Waze, un conducteur le précédent aurait pu lui signaler un obstacle. Mais cet appareil qu'on a tous sans cesse sur nous nous a fait perdre l'essentiel, l'autre. Nous ne sommes plus que des bulles solitaires dans le grand bain moussant de la vie. Alors que l'essentiel, ce n'est jamais l'écran devant nous. Ce sont nos fils, nos filles, nos amis, notre grand-mère, notre poster de Clara Morgan si on n'a pas de lien social et qu'on est très 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 chaud. Donc on éteint toutes ces conneries s'il vous plaît et on se reconnecte les uns aux autres. Bonjour Leïla, Frédéric Chopin est né en 1810 à Varsovie.
Tanguy Passion.
Vous êtes du genre à être bloqué sur votre téléphone portable ou gentelé?
Non. Puis je suis pas sur Facebook,
le phubbing, c'est
pas de
vous.
Twitter, pas de je sais pas quoi, Instagram, tout.
Coupé du monde.
Ouais. J'ai pas envie de me faire emmerder sans.
Parce qu'on avait cru comprendre par
une bande de cons qui signent tous sous pseudo et tout. Non.
Ça c'est dit, ça c'est fait. Mais revenons à ce qui est plus intéressant et on va en parler sur les réseaux sociaux quand même. C'est Entrer dans la danse, votre roman publié chez Julliard. J'ai pas évoqué quelque chose d'important, c'est que Enlin, qui a abandonné son fils, enfin qui l'a jeté dans la rivière et qui est le patient zéro de cette histoire, qui se met à danser en premier et qui contamine d'une certaine façon tous les autres, et l'épouse de Melchior, qui est un imprimeur.
Ouais, un graveur.
Un peu artiste.
Voilà, il faisait des gravures qu'on appelait des feuilles volantes qui normalement dans les marchés étaient vendues pour montrer les scènes pittoresques de la ville et tout. Et puis voilà, c'était un métier de l'époque.
Et les voisins, eux aussi, travaillent dans l'imprimerie. Ils travaillent pour une imprimerie, les Toffea. Est-ce que c'est un hasard d'avoir choisi ce métier-là qu'ils ont en partage dans ce livre?
Mais ça, c'est la part du romancier, parce qu'on ne sait pas ce que faisait le mari en réalité. Et j'avais envie qu'il y ait des dessins dans ce livre et tout, des gravures de l'époque. Et donc, je lui ai collé ce métier-là. Voilà,
c'est le choix, le privilège du romancier.
Oui, parce que ce livre n'est pas un essai, mais un roman.
Ouais. Oui, parce que l'imprimerie apparaît très peu de temps avant.
Trentaine d'années avant.
Oui, et qu'elle permet aussi de diffuser un certain nombre d'idées. Quand vous parlez de la réforme et de Martin Luther, ça n'aurait été possible que grâce à l'apparition de l'imprimerie.
Mais absolument, ça aurait.
Donc c'est stratégique quand même.
Mais comme quoi, il y en a là-dedans.
Oui, il y en a pas mal. Mais ça, je le savais déjà, Jean Tellet. Daniel.
Oui, une petite pause. On peut pas dire que vous traîniez des pieds dans Entrer dans la danse, puisque tout le monde est en train de se casser les pieds, casser les nerfs et de sanguinoler sur les pavés de Strasbourg. Et pourtant, Olivia Ruiz, elle traîne des pieds. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 avec Jean Tellet pour Entrer dans la danse aux éditions Julliard. Le rêve du Père Albert est à suivre.
Je n'aimais pas beaucoup l'école. Je traînais les pieds, mes guibolles abîmées. J'explorais mon quartier. Je traînais des pieds dans mon café. Les vieux à la pelote braillaient.
Bousillé, mes godasses, bousillé sur ma joue, bousillé. famille, tête dans le guidon du temps, pouvait faire les cons. Les pensionnaires, les habitués, les gens de passage, surtout l'été, joyeux bordel dans mon café. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Balayer la terrasse, envoler le bout de chou, envoler les miettes de nous. Je traîne mes casseroles. Je n'aime toujours pas l'école. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous.
Reine des pieds, Olivia Ruiz dans la bande originale sur France Inter. Et aujourd'hui, nous avons la grande chance d'être avec Jean Tellet.
Pour entrer dans la danse, ce roman aux éditions Julliard qui revient sur un fait historique assez fascinant dont on a parlé tout à l'heure, une hystérie collective qui entraîne des milliers de Strasbourgeois en 1518 à danser sans s'arrêter, jusqu'à en perdre la vie.
Lui aussi, on se demande quand il va s'arrêter, c'est le père Albert qui nous fait part de son rêve.
Eh bien, cette nuit, à minuit et une minute, alors que j'allais achever la lecture des Entrées dans la danse, le roman passionnant de Jean Tellet, jetant un œil à mon radio-réveil, j'avisais la date lumineuse, 24 avril. Déjà le 24 avril, jour de la Saint-Fidèle qu'il faut invoquer quand on est menacé par des assassins. Ça peut toujours servir. J'étais sur le point de m'assoupir, et quand je suis sur le point de m'assoupir, je finis par m'endormir. Et quand je dors, je relève soudain la tête, car sans être pétochard à l'idée d'une agression traîtresse pendant mon sommeil, je ne peux fermer l'œil. Alors à minuit et deux minutes, mon gros gourdin à la main, mon cousin, je me suis relevé pour regarder sous ma paillasse. Ouf, il n'y avait personne. Je me recouche, et quand je me recouche, comme je vous le disais, je m'assoupis. Et quand je m'assoupis, je m'endors. Et quand je m'endors, je réalise que je n'ai pas regardé derrière les rideaux.
Oui, j'imagine, et sous le lit aussi, derrière les rideaux, j'imagine aussi, vous avez regardé dans le placard, sous le tapis.
Mais tu me connais bien, Daniel. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Alors, pour trouver le sommeil, je me suis souvenu que dans le calendrier républicain, le 24 avril, cinquième jour de Floréal, était le jour du rossignol. Voilà, on attend. Le rossignol, oiseau réputé pour son chant aux sonorités harmonieuses. Et quand par une nuit de printemps, j'entends le rossignol chanter, mon âme s'abandonne à cette suave mélodie. Et quand je m'abandonne à cette suave mélodie, je me détends. Je relâche mon gros gourdin, et quand je relâche mon gros gourdin, je m'endors. Et quand je m'endors, je rêve. Dans mon rêve, le rossignol chantait. Quand je vis venir à moi Jean-Philippe Manœuvre, le cousin du célèbre rock critique. Jean-Philippe, entends-tu le rossignol chanter? Quel souffle divin!
Ok, Father Albert, mais ton piaf, il aura jamais autant de souffle que Roland Kirk, saxophoniste aveugle de génie qui, le 17 juillet 1972, grâce à la technique de respiration circulaire, souffla dans deux sacs en même temps, ajoutant même deux flûtes et authentiques à bec dans ses trous de nez. En plus, il avait aussi le projet de souffler dans une trompette, mais je te dis pas où il comptait se la mettre.
Alors que Jean-Philippe s'éloignait, je vis venir à moi Jean-Jean Michel Apathy, cousin du célèbre journaliste France Info.
Oh là là.
père Albert, bonjour. Je vous ai entendu parler de Rossignol, ce qui me fait penser au Rossignol milanais, surnom de la Castafiore, la célébrissime cantatrice. Si vous aviez lu le dictionnaire amoureux de Tintin, vous sauriez qu'en fait, la Castafiore est un castrat. Rossignol est en effet le surnom donné en Italie à ses chanteurs à l'organe très particulier. Je vous en parle car mon ami Albert Allegou, auteur du dictionnaire amoureux de Tintin, se refuse à profiter du micro pour procéder à l'autopromo de ses ouvrages publiés chez Plomb.
Excellent ouvrage.
À peine, mais je vous remercie. Pour lui. À peine avais-je remercié Jean-Michel Apathy pour cette recommandation de lecture désintéressée que je fais apostropher par le maréchal Ganache.
Ah, quand ça me fatigue avec le Rossignol. Le seul piaf digne de respect, c'est le pigeon voyageur militaire. En Indo, assiégé dans Gangbang Phok, quand les messages radio ne sont plus passés, c'est grâce à Fianto, le seul pigeon voyageur qu'on n'avait pas bouffé, qu'avant d'être capturé par les Viet contre les Viet, j'ai pu envoyer une dernière lettre d'amour à Edmond, la future maréchale Ganache. Je l'avais rencontré en 1954, à l'œil de bronze, le cabaret fumerie d'opium de Saigon tenu par Madame Suzy Wan, où Edmond chantait mon truc en plume tout en s'effeuillant. Ah, dans sa loge, quand je la caressais dans le sens des plumes, je peux vous dire qu'elle rougoulait. Je regrette tellement. Maréchal Ganache, je ne tiens pas à ce que mon rêve vire au cauchemar, alors ressaisissez-vous. Ne me jugez pas. J'ai tellement de peine. Pour me faire pardonner, je vais vous présenter un ami. Le neveu d'un célèbre chanteur d'opérette.
Ah, mais oui, je le reconnais, en effet, c'est Jean-Georges Guettari.
Oui, c'est moi. Et, oh, et comme vous aimez les rossignols, je vais vous chanter. Rossignol, rossignol de mes amours.
Heureusement, à ce moment, alors que mon rêve virait au cauchemar, je me suis réveillé de cette escroquerie et j'ai pu terminer entrer dans la danse. Ah. Bonne fin d'émission.
Merci, Pierre Albert.
Bravo Albert, et tout ce qu'on peut dire, c'est que ouais, c'est ça, il nous fait toutes les voix, c'est incroyable.
Complètement possédé.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'entrer dans la danse, comme tous les romans de Jean Tellet, ne seront pas des rossignols, ces livres qu'on laisse en haut des étagères dans les librairies, puisque c'est
vous
un,
savez pourquoi on dit
un carton de vente.
Parce oui. que le rossignol est haut perché, c'est donc ça. Les objets sans valeur, on les met tout en haut.
Voilà, donc on sait très bien où sont placés les bouquins de Jean Tellet dans une librairie.
En bas.
Tout près des
pour
mains.
Pour caler l'armoire.
Tout... Non, alors, loin de là, Jean Tellet. Alors, est-ce qu'on peut évoquer avec vous la suite?
Non.
Les projets? Qu'est-ce que vous travaillez sur quoi?
J'ai une idée, mais... Mais j'en suis pas encore sûr et puis alors là j'ai surtout pas la raconter.
Il y a toujours un peu d'histoire. Non, vous parlez tout à l'heure d'une histoire moderne.
Non, ça serait pas l'histoire. Ouais, ouais. Non, puis j'aime bien alterner. Ouais, c'est ça que ça devienne pas un principe.
Ouais. Et une recette.
Ouais. Et alors je vais voir. Mais je vais commencer par me reposer parce que j'ai bien bossé. Puis je vais aller en Bretagne dans ma maison parce que c'est une maison qui est particulière. C'est une maison qui fait cuit-cuit au printemps parce que c'est une maison avec des murs d'un mètre, voilà, avec d'un mètre d'épaisseur et tout en pierre sèche. Et tous les oiseaux du coin, comme la maison est au bord d'une forêt, viennent nidifier là-dedans. Et alors, on fait le tour de cette grosse maison. Elle chante de partout. C'est un miracle du monde et j'ai envie de
mais quelqu'un qui aime les choses aussi jolies que ça, que le chant des oiseaux, comment vous faites pour écrire de telles horreurs? Vous entendez trop d'oiseaux
de ce pauvre cerveau malade.
Il est temps à présent, mes bien chères sœurs et mes bien chers frères, de présenter nos excuses. Daniel Morin.
Absolument. Déjà désolé pour nos auditeurs alsaciens qui, en plus d'avoir des ancêtres qui ont sûrement collaboré avec les Allemands à une certaine période de l'histoire, ont découvert ce matin que Leïla Kadour Boudadi avait sévi dans leur région. Désolé pour Julien Bisson, rédacteur en chef de livres dont l'amour de l'alcool et de l'apéro matinal a été outé par Jean Tellet. En même temps, pour aller à Brive, faut en tirer une sacrée couche. Désolé pour tous les proctologues qui nous écoutent et qui ont été choqués par la description de leur métier faite par Jean Tellet. Presque Sally, qui parle d'un boulot où, je cite, on dit bonjour, on se retrouve avec deux doigts dans le cul. Ah oui, c'est un peu résumé. En même temps, ça ressemble quand même. Soyons honnêtes.
Il n'y a pas que du faux.
Ça ressemble à ça. Et désolé pour tous les besogneux, les bosseurs, les acharnés qui ont été outrés par l'indolence, le dilettantisme, bref, le côté feignasse de notre invité, Jean Tellet.
raconter l'homme qui, je le rappelle, se réveille quand il a fini son rêve. Eh ben, je peux vous dire, vous êtes prêt à bosser sur Inter, mon cher Jean.
Bravo et merci,
merci à vous.
Pour rentrer merci dans la danse beaucoup. Chez Julliard, ce très beau roman. Et demain, on recevra Daniel Auteuil, mon cher Daniel. Daniel.
Absolument. Et tout de suite, c'est Carnet de campagne avec Philippe Bertrand. Excellente journée à l'écoute de France Inter.